La couronne de foin.
Une aurore presque rouge incendiait l'horizon derrière les collines de Costwold. « Le soleil va bientôt poindre, Sir John, » dit Thomas Gournay, l'un des deux cavaliers qui marchait en tête de l'escorte. « Oui, le soleil va poindre, Sir Thomas. »« Et nous ne sommes point encore arrivés à notre étape, » répondit John Maltravers, qui cheminait à côté de lui, au botte à botte. « Quand le jour sera venu, les gens pourraient bien reconnaître qui nous conduisons, » reprit le premier. « Cela se pourrait en effet, mon compagnon, et c'est tout juste ce qu'il nous faut éviter. » Ces paroles étaient échangées d'une voix haute, forcée, afin que le prisonnier qui suivait les entendît bien. La veille, Sir Thomas Gournay était arrivé à Berkeley, ayant traversé la moitié de l'Angleterre pour porter depuis York à John Maltravers les nouveaux ordres de Roger Mortimer concernant la garde du roi déchu. Gournay était un homme de physique peu avenant. Il avait le nez court et camard, les crocs inférieurs plus longs que les autres dents, la peau rose, tachetée, piquetée de poils roux comme le cuir d'une truie. Ses cheveux trop abondants se tordaient, pareils à des copeaux de cuivre, sous le bord de son chapeau de fer. Pour seconder Thomas Gournay, et aussi pour le surveiller un peu, Mortimer lui avait adjoint Ogle, l'ancien barbier de la Tour de Londres. Au soir tombant, à l'heure où les paysans avaient déjà avalé leur soupe, la petite troupe quittant Berkeley s'était dirigée vers le sud à travers une campagne silencieuse et des villages endormis. Maltravers et Gournay chevauchaient en tête. Le roi allait encadré par une dizaine de soldats que commandait un officier subalterne du nom de Towerley. Colosse à petit front et d'une intelligence parcimonieusement mesurée, Towerley était un homme obéissant, bien utile pour les tâches qui réclamaient à la fois de la force et qu'on les exécutât en se posant un minimum de questions. Ogle fermait la marche, en compagnie du moine Guillaume, lequel n'avait pas été choisi parmi les meilleurs de son couvent. Mais on pouvait avoir besoin de lui pour une extrême onction. Toute la nuit, l'ancien roi avait cherché vainement à deviner où on le conduisait. À présent, le jour paraissait. « Que faire, Sir Thomas, pour qu'on ne puisse point reconnaître un homme ?» reprit sentencieusement Maltravers. « Lui changer le visage, Sir John, je ne vois que cela !» répondit Gournay. Il faudrait le barbouiller de goudron ou bien de suie. Ainsi les paysans croiraient que c'est un mort que nous accompagnons. Par malchance, nous n'avons pas de goudron. Alors on pourrait le raser, dit Thomas Gournay en appuyant sa proposition d'un lourd clin d'œil. Ah, voici la bonne idée, mon compagnon, d'autant que nous avons un barbier dans notre suite. Le ciel nous vient en aide. Ogle, Ogle, approche donc. As-tu ton bassin, tes rasoirs?
Je les ai, Sir John, pour vous servir,
répondit Ogle en rejoignant les deux cavaliers. « Alors, arrêtons-nous ici. Je vois un peu d'eau qui court dans ce ruisseau. » Tout cela était depuis la veille concerté. La petite colonne fit halte. Gournay et Ogle mirent pied à terre. Gournay avait les épaules larges, les jambes très courtes et arquées. Ogle étendit une toile sur l'herbe du talus, y disposa ses ustensiles et se mit à aiguiser un rasoir, lentement, en regardant l'ancien roi.
« Que voulez-vous de moi? Qu'allez-vous me faire ?»
demanda Édouard II d'une voix angoissée.
« Nous voulons que tu descendes de ton destrier, noble sire, afin que nous te fassions un autre visage. Voilà justement un bon trône pour toi !»
dit Thomas Gournay en désignant une taupinière qu'il écrasa du talon de sa botte.
« Allons, assieds-toi »
Édouard obéit. Comme il hésitait un peu, Gournay le poussa à la renverse, et les soldats d'escorte éclatèrent de rire.
« En rond, vous autres !» leur dit Gournay.
Ils se disposèrent en cercle et le colosse Towerley se plaça derrière le roi afin de lui peser sur les épaules, s'il en était besoin. L'eau du ruisseau était glacée qu'à la puiser Ogle.
« Mouille-lui la face !» dit Gournay.
Le barbier lança tout le contenu du bassin d'un coup à la face du roi. Puis il commença de passer le rasoir sur les joues, sans précaution. Les touffes blondes tombaient dans l'herbe. Maltravers était resté à cheval. Les mains appuyées au pommeau, les cheveux lui pendant sur les oreilles, il suivait l'opération en y prenant un évident plaisir. Entre deux coups de rasoir, Édouard s'écria
« Vous me faites trop souffrir. Ne pourriez-vous pas au moins me mouiller d'eau chaude ?»«
De l'eau chaude !» s'écria Gournay. « Voyez donc le délicat !»
Et Ogle, rapprochant sa face ronde et blanchâtre du visage du roi, lui souffla de tout près
« Et my lord Mortimer, quand il était à la Tour de Londres, faisait-on chauffer l'eau de son bassin ?»
Et puis il reprit sa tâche. À grands coups de lame. Le sang perlait sur la peau. De douleur, Édouard se mit à pleurer.
« Ah, voyez l'habile homme !» s'écria Maltraverse. « Il a trouvé le moyen d'avoir quand même de l'eau chaude sur les joues !»«
Je rase également les cheveux, Sir Thomas ?» demanda Hoggle.
« Certes, certes, les cheveux aussi !» répondit Gournay.
Le rasoir fit tomber les mèches depuis le front jusqu'à la nuque. Au bout d'une dizaine de minutes, Hoggle tendit à son patient un miroir d'étain. Et l'ancien souverain d'Angleterre y découvrit avec stupéfaction sa face véritable, enfantine et vieillotte à la fois, sous le crâne nu, étroit et allongé. Le long menton ne cachait plus sa faiblesse. Édouard se sentait dépouillé, ridicule, comme un chien tondu.
« Je ne me reconnais pas, » dit-il.
Les hommes qui l'entouraient se remirent à rire.
« Ah, voilà qui est bien !» dit Maltravers du haut de son cheval. « Si toi-même tu ne te reconnais pas, ceux qui pourraient te chercher te reconnaîtront encore moins. Voilà ce qu'on gagne à vouloir s'évader !»